Philosophie première, Père Marie-Dominique Philippe, 4 janvier 1998 à Saint-Jeudard.
Donc, c'est bien l'expérience. Et c'est en découvrant la causalité finale que je me pose la question, cette causalité finale, comment se racine-t-elle dans l'être? Et là, j'ai le problème métaphysique. Qu'est-ce que c'est que la finalité dans ce qui est en tant qu'il est? Et je peux, au plan réflexion critique, voir que cette causalité peut se poser et doit se poser en philosophie première, parce que cette causalité n'implique en elle-même aucune limite. Vous voyez, la causalité efficiente, c'est la causalité du devenir, donc elle implique une limite. Donc, elle ne se pose pas dans l'analyse de ce qui est en tant qu'il est. La causalité matérielle implique une limite. Elle ne se pose pas à l'égard de ce qui est en tant qu'il est. L'être en tant qu'être n'implique aucune limite. La ratio endis n'implique en elle-même aucune limite. Et c'est pour ça qu'il n'y a que ces deux causalités, la causalité selon la forme, la causalité selon la fin. Cela, je peux le saisir en critique. Et même je dois le saisir en critique. Mais ça ne me fait pas comprendre ce que c'est. Hein. Ça me fait comprendre que ça n'a pas de limite.
C'est la politique.
Voilà le fondement une époque où le travail s'est séparé de sa finalité. Le travail en série de l'ouvrier, en usine. Et on n'a plus su ce que c'était que le travail. Historiquement, c'est très très net. Et on n'avait pas suffisamment compris que c'était quelque chose de capital. Dans la philosophie d'Aristote, Aristote commence par réfléchir sur le point de vue du travail artistique. Puis l'éthique, puis la politique. Et la politique regarde la coopération de l'homme avec l'homme. La politique implique la communauté. La communauté n'est pas première. Ce n'est pas la communauté qui me donne le sens de ma vie. Même au noviciat, le sens de ma vie m'est donné par ma foi et ma foi contemplative dans le Christ. Et le Christ a fondé une communauté surnaturelle, pas humaine. Adam a été l'époux d'Ève. Et Jésus, il a été le fils bien-aimé du Père. C'est quand même très significatif, ça. Et c'est intéressant de regarder pourquoi. Alors, et ça, c'est très important pour nous. Parce que le nouveau précepte, aimez-vous les uns les autres, ne fait pas que le nouveau précepte passe avant le premier précepte d'amour. Et le premier précepte d'amour pendant 2000 ans, puis le dernier précepte vient pendant 2000 ans. C'est... Alors, encore une fois, ce n'est pas de la philosophie, ça. C'est un regard de l'homme intelligent qui essaie de comprendre ce qui se passe dans l'humanité. Un vrai philosophe ne peut pas se désintéresser du mystère de Jésus. Il doit se poser la question, est-ce un mythe ? Est-ce un logos ? Et le faire loyalement, sans a priori. Et le chrétien qui veut être parfaitement chrétien doit, pour ses frères qui sont philosophes, se demander comment il peut présenter aux autres philosophes l'apparition du Christ, non pas comme un mythe, mais comme un logos. Le prologue de l'évangile de Jean. C'est le mythe le plus merveilleux et c'est la réalité la plus grande. Mais c'est un mythe qui n'est plus un mythe. Et qui touche à la réalité. Et on touche à tous ces problèmes aujourd'hui. Hein. Ça qui est si important. Et on est en contact constamment avec des chrétiens qui ne sont plus chrétiens. Un Merleau-Ponty. Et il y en a des quantités, hein. Je les énumère pas. Je prends Merleau-Ponty parce que, étant donné qu'il est mort, on peut montrer cela de façon nette. Et à la fin de sa vie, il politique, le bien commun. Regarde les moyens pour atteindre plus facilement notre fin. La politique, c'est du côté du conditionnement de l'homme. Je suis un homme politique, pas en raison de ma finalité contemplative, mais en raison de mon corps, qui est un conditionnement substantiel. Et parce que mon corps est un conditionnement substantiel, la politique ne peut pas se séparer de l'éthique. Si mon conditionnement était uniquement une question de coutume, donné à la Grande Chartreuse. Mais étant donné la pénurie de philosophes, on avait demandé aux frères, c'est-à-dire aux dominicains, puisque la liturgie dominicaine est très proche de celle des Chartreux. Et votre vocation de Chartreux, est-ce qu'elle est conventionnelle? Le père maître était là. Ils m'ont dit oui. Ces novices étaient licenciés en théologie de l'Institut catholique de Paris. Je vous cite ça, c'est entre nous. Vous regardez ça. Non mais, c'est pour que vous compreniez que ce qu'on dit ici touche d'une façon très nette et très profonde notre vie chrétienne. Je sais très bien que un certain nombre c'est... Et je prends l'express cet exemple pour vous montrer jusqu'où ça pénètre aujourd'hui. J'aurais dit, je prie pour que vous compreniez que votre vocation n'est pas conventionnelle. Parce que ça ne tient pas. Je ne base pas ma vie humaine sur du conventionnel. Je ne peux pas baser ma vie sur du conventionnel. Surtout si j'entre à la Chartreuse. Saint-Bruno, toi, hurlez. Que la vocation de Chartreux est conventionnelle. Alors, je sais très bien, ils ne savent plus ce que ça veut dire. Parce que je crois qu'en réalité, c'est ça. Ils ne distinguent plus le réel et le conventionnel. Le conventionnel dépend des mœurs humaines, pas de la morale, des coutumes. On a l'habitude de s'asseoir pour écrire. Je pourrais inventer que je suis à côté de celui qui écrit. Je pourrais écrire sur son dos, c'est un excellent pupitre. Alors voyez ce qu'on ferait. On aurait une grande bande comme ça. Comme ça. C'est conventionnel, ça. Bien que... un médecin dirait non. Être assis, c'est le propre de l'homme. Vous avez déjà vu un singe assis? Le faire pour imiter. Alors chez lui, c'est conventionnel. Tandis que pour nous, c'est pas conventionnel. C'est en partie conventionnel, mais pas entièrement. Il y a une attitude naturelle. L'enfant dans le sein de sa mère, est-ce que c'est conventionnel? L'attitude qu'il a. C'est naturel. Il y a la nature. Il y a la finalité spirituelle. Et il y a le milieu dans lequel on évolue. Lui, implique des usages conventionnels. Il y a beaucoup de choses dans notre vie qui sont partie conventionnelle et partie naturelle. C'est intéressant du reste. La parole est naturelle et conventionnelle. Elle n'est pas entièrement naturelle. Travailler avec une seule langue. Le sourire est naturel et pas conventionnel. Conventionnel, c'est l'interprétation qu'on en donne. La distinction entre le naturel et le conventionnel. L'intention n'est pas conventionnelle. Elle revient à la finalité. Vous voyez, c'est pour ça que j'insiste sur la causalité finale. Parce que si on ne voit pas ce que c'est que la causalité finale dans notre vie, très vite, on n'a plus la force de continuer. On ne peut pas se baser toute sa vie sur du conventionnel. Impossible, ça. Dieu fou. Mais on base sa vie sur quelque chose de réel. Et c'est ce contact avec la réalité suprême qui, pour nous, comme chrétiens, est le Christ. Et Dieu, le Père. Pour un philosophe, c'est Dieu créateur. Et ça, c'est pas conventionnel. C'est la réalité. Alors, le point de vue politique moyens plus ou moins bons, plus ou moins adaptés, que les formes de gouvernement impliquent quelque chose de conventionnel, oui, c'est sûr. Mais il y a quelque chose en même temps, il y a un fondement naturel. Il y a un fondement naturel qui est quelque chose de grand et de bon. Ça touche notre nature humaine de vivre en communauté. La communauté n'est pas conventionnelle, elle a un fondement réel. Mais le gouvernement de la communauté, ça c'est point de vue politique, est nécessaire pour maintenir l'unité. Avant tout, pour maintenir le primat de la causalité finale. Avant tout, c'est ça l'âme d'un gouvernement. Mais le reste, les lois positives du gouvernement, sont le fruit d'une expérience et impliquent nécessairement quelque chose de conventionnel. Vous vous demandez la question, est-ce que le mariage monogame est conventionnel, ou est-ce que c'est naturel? Philosophiquement, on peut dire que le mariage de l'époux et de l'épouse est enraciné dans l'amour d'amitié. Et implique un amour d'amitié unique à cause du don des corps avec la procréation. Et au fond, ce que l'Église chrétienne, ce que Jésus dit, a un fondement naturel. Et c'est dont les hommes ont de la peine à voir l'amitié dans sa finalité profonde, que on prend l'amitié de jouissance et l'amitié d'utilité. Regardez les raisons qu'on donne. Le point de vue politique doit rester. qui peuvent se passer dans certains pays, et c'est encore actuel. Ensuite, vous dites dans Être 2, page 473, que la recherche de l'acte est à la fois fondamentale et ultime dans l'ordre de l'être. Qu'est-ce à dire? Elle est ultime, ça c'est sûr. Mais quand je dis ultime, ça ne veut pas dire que ça vient au-dessus. Enracine dans ce qu'il y a de plus profond dans l'être. Mais, donc mettez un ordre et comprenez, elle est à la fois ultime et fondamentale. Il faudrait mettre ça, ultime et fondamentale. Parce que, mais on peut mettre fondamentale et ultime, elle se pose tout de suite. Que s'il a la signification de sa vie. Connais-toi toi-même, Socrate, le père de la morale. Connais-toi toi-même et connais ce pourquoi tu es fait. Tant que l'homme ne sait pas ce pourquoi il est fait, il ne se connaît pas. Le chemin d'existence attend qu'on atteint l'acte d'être d'une réalité oblige à poser une nouvelle interrogation, autre que celle portant sur la détermination de l'être. Et pourquoi cette nouvelle interrogation est-elle celle de la fin de l'être? Quel rapport entre l'acte d'exister et la fin et la finalité de l'être? L'amour d'amitié, d'expérience humaine, dans ce cas-là de plus fort et de plus fondamental, qui touche la finalité. Donc c'est un fait. Les diverses causalités, comment les découvrir, ce n'est pas conventionnel, mais c'est propre à l'expérience humaine. C'est pas propre à Aristote, c'est propre à une philosophie réaliste qui veut comprendre ce qu'est l'homme. Si je faisais la philosophie de l'araignée, la causalité finale apparaîtrait dans l'immanence de l'araignée qui, sachant instinctivement qu'elle est faite pour mourir, avant de mourir, elle est source de vie pour une autre araignée. Ce serait la procréation qui serait le lieu de la finalité liée à l'existence. La découverte de la finalité, c'est la découverte de son esprit. Il n'est pas seulement un animal, comme l'araignée. Il est fait pour autre chose, pour contempler. fait en acte. L'amour d'amitié ne s'occuperait pas de l'amour de l'ami. C'est la mort de l'ami qui fait comprendre à l'ami que son amitié présuppose le chemin d'existence. Est-ce que pour l'amitié humaine, l'existence ou la non-existence de l'ami, ça lui est égal ? Si notre amitié était purement platonicienne, elle pourrait dire la mort ne touche pas essentiellement l'homme. Et donc, là, ce qui est très curieux, vous voyez, c'est que Platon se rattrape dans le réalisme de la philia en voyant combien la philia implique le don des corps. Ça montre bien qu'il n'a pas saisi le réalisme de l'amour spirituel jusqu'au bout. L'aspect substantiel de l'amour d'amitié. L'amour d'amitié conduit à la contemplation. L'amour d'amitié conduit à poser l'existence du Créateur. Pour Platon, pas. D'où cette incohérence platonicienne. Du reste, il y en a plusieurs, mais c'est bon de les saisir. Incohérence de voir que l'amour d'amitié réclame le don des corps, et l'incohérence aussi de voir que les formes idéales ne peuvent pas être premières, puisqu'elles présupposent que l'intelligence existe. Et je crois qu'on doit aujourd'hui bien regarder Platon, parce qu'on est en plein platonisme et néoplatonisme. C'est important, c'est plus facile de voir les erreurs du platonisme dans Platon, dans Plotin, que de le voir dans Hegel. Il faut d'abord le voir dans Platon, dans Plotin, pour bien le voir ensuite dans ce que représente la phénoménologie. Métaphysique. Donc comprenons que le problème se pose pour nous par les deux grandes expériences humaines du travail artistique ordonné à l'œuvre et impliquant une idée. de l'exister. Pour vivre pleinement de l'amour spirituel, vous êtes nous. Pour comprendre l'autonomie de mon être, vous êtes un. C'est très étonnant. Donc il y a deux expériences fondamentales au point de vue philosophique. L'unité et la dualité. Et dans la dualité, l'unité. Une fois que vous comprenez ça, vous vous posez la question au point de vue de la découverte de cette science de l'être en tant qu'être. La découverte de l'autonomie dans l'être, l'autonomie réelle d'un être. Sa substance, source d'autonomie, principe propre de ce qui est en tant qu'il est. Et la question de savoir qu'est-ce que c'est you c'est la simplicité de l'être de Dieu, ça. Alors, il faut comprendre que cette question, se poser la question